Pasa.
Bonjour à toutes et tous. Bonjour aux GBUciens, GBUciennes qui sont nombreux en week-end ce samedi dimanche. J'aimerais commencer par une petite devinette. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le point commun entre toutes les expressions que vous voyez derrière moi, tous ces proverbes, toutes ces expressions qu'on utilise en français? Pardon? Ouais, elles sont toutes tirées de la Bible. Et ce matin, nous allons parler un peu plus en détail d'un de ces proverbes qui va s'afficher en orange. Nul n'est prophète en son pays. Quel est le sens de ce proverbe? Ceux qui ont moins de 40 ans, vous savez que dans les dictionnaires, il y a entre les noms communs et les noms propres une petite des pages roses ou saumon, dans lesquelles on trouve des définitions de proverbes, de locutions latines. Et nul n'est prophète en son pays, vous le voyez derrière moi, et expliqué de cette manière-là, personne n'est apprécié à sa vraie valeur là où il vit habituellement. Et dans le texte de la Bible que l'on va lire, Jésus utilise un mot qu'on peut traduire par « n'est pas honoré ». On n'est pas honoré. Là où on est le mieux connu, là où on peut espérer être reconnu à sa vraie valeur, eh bien c'est justement là où on rencontre plus de difficultés qu'ailleurs. Et ça nous questionne. Nous sommes, je pense, nombreux ici ce matin à être disciples de Christ, à vouloir grandir, cheminer avec lui. On pourrait presque dire que l'Église, c'est sa maison. Est-ce que Jésus est honoré parmi nous? Est-ce que Jésus est honoré dans nos vies? Ou bien est-ce que le fait de bien connaître Jésus depuis très longtemps, d'être familier, parfois depuis qu'on est tout petit, peut nous jouer des tours? Et dans ce cas, comment ne pas tomber dans le piège? Lisons ensemble dans la Bible, dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 6, les versets 1 à 6, dans la traduction du semeur. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ? » disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? » Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. » Dans ce passage, Jésus revient à Nazareth après avoir passé du temps au bord du lac de Galilée, à 40 km de là, qui est sa base principale. Nazareth, c'est la ville où Jésus a grandi. Il a passé son enfance, son adolescence, sa jeunesse, il a appris son métier. C'est la ville qu'on associe à Jésus, c'est la manière dont on décrit Jésus, Jésus de Nazareth. Et comme tout juif, le samedi, il se rend à la synagogue. Il retrouve les personnes qu'il connaît depuis 30 ans, sans doute aussi des membres de sa famille sont présents. Et malgré cela, Jésus n'est pas reconnu à sa juste valeur. Jésus n'est pas honoré. Et nous allons voir que ce texte nous encourage au contraire à honorer Jésus parce qu'il en est digne. À honorer Jésus malgré les obstacles, à honorer Jésus par notre foi. L'accueil de Jésus par ses compatriotes commence plutôt bien. Regardons le verset 2. Jésus enseigne, donc il prend un texte de la Bible hébraïque, du Premier Testament, il le commente, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses auditeurs ne sont pas indifférents. Dans la traduction du semeur qui est utilisée ici, on utilise le mot « étonné ». Dans d'autres traductions, on trouve le mot « impressionné »,« ébahi », »,« frappé d'étonnement ». Et cette réaction d'étonnement, elle s'appuie sur deux choses. les paroles de Jésus, ses paroles de sagesse, et ses actions, ses miracles. Ce que fait Jésus, ce que dit Jésus étonne, impressionne les personnes qui le voient et qui l'écoutent. Le 20 août 2021, j'ai vécu aussi un moment de ce type-là. Un moment où on est impressionné, étonné. On était une semaine en vacances, en famille, dans la vallée de Chamonix. C'était la première fois de ma vie que je m'approchais aussi près du plus haut sommet des Alpes. Est-ce que les jeunes qui sont là, ou les ados, vous savez quel est le plus haut sommet des Alpes? Non. Bon. Je vais vous aider. Ça s'appelle le Mont Blanc. Alors, quand on est dans la vallée de Chamonix, le Mont Blanc, si vous y étiez déjà, quand il fait beau, on le voit tout le temps. Mais ce jour-là, le 20 août 2021, nous avons pris un téléphérique pour monter au sommet du Brévent, qui se situe juste en face du Mont Blanc. Et le fait de prendre de la hauteur a totalement changé la perspective que l'on avait. Voilà le paysage que l'on avait devant nos yeux. J'étais vraiment scotché devant cette vue. S'approcher de Jésus, c'est un peu comme monter au sommet du Brévent, être en position d'admirer la beauté, la grandeur, la puissance dont on a parlé, qu'on a chanté dans la première partie du culte. Pour moi, ce sont des paysages comme ça qui me font des chocs esthétiques. Peut-être que pour vous, ça va être un morceau de musique ou une œuvre d'art. Est-ce que moi aussi, comme les auditeurs de la synagogue, je suis étonné, ébahi, frappé d'étonnement devant les paroles de Jésus, devant ses actions? Parce qu'il a fait il y a 2000 ans et parce qu'il continue encore à faire aujourd'hui par son esprit. Est-ce que je réalise que quand je prie, c'est comme si je me retrouve face au Mont Blanc? Quand j'ouvre la Bible, c'est comme si je me retrouve projeté dans un paysage extraordinaire. Est-ce que j'ai conscience que Jésus est digne d'être honoré? La réponse à toutes ces questions est, pour ma part en tout cas, parfois oui, parfois non. Ce n'est pas toujours simple. Et ça a été compliqué pour les habitants de Nazareth aussi. Après un bon départ, leur regard change. L'étonnement disparaît et c'est le scepticisme, une vision de Jésus beaucoup moins éclatante, qui prend le dessus. Regardons ce qui s'est passé et essayons de comprendre en lisant le verset 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Les auditeurs ont commencé par poser les bonnes questions. Comment est-il d'où vient cette sagesse? D'où viennent ces miracles? Et en fait, des questions qui demandent de réfléchir, de chercher, qui ne sont pas évidentes. Mais là, ils passent à des questions beaucoup plus simples auxquelles ils ont la réponse. Bien sûr, c'est le charpentier. Bien sûr, c'est le fils de Marie. On croise ses frères, ses sœurs, tous les jours dans le village. Et ces éléments constituent pour eux des obstacles pour honorer Jésus. En se concentrant sur des aspects secondaires, ils ont perdu de vue l'essentiel. Comme si l'émerveillement initial s'était éteint. Et ils retrouvent un Jésus familier, le Jésus qu'ils croient connaître, qui ne les interpelle pas, qui ne les dérange pas. Quand vous êtes au sommet du Brévent, le Mont Blanc s'impose à vous. Mais on peut très facilement le faire disparaître. Vous savez comment? On va le faire ensemble. Vous allez fermer un œil, et puis vous allez mettre votre pouce devant l'autre œil. Et voilà, ça marche aussi avec la lune. Un tout petit pouce de quelques centimètres peut cacher une montagne de plus de 4000 mètres. Comme le métier, comme la famille de Jésus, ces aspects secondaires de la vie du Christ ont fait disparaître l'étonnement initial des auditeurs de la synagogue. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, certaines choses dans notre parcours ou dans notre vie peuvent s'accumuler et nous empêcher de voir Jésus. Je pense à un ami avec lequel j'ai récemment discuté des questions de la foi et qui me disait que pour lui, la religion chrétienne, la foi chrétienne, c'était essentiellement une succession d'interdits, une tradition avec des rites qui étaient creux, qui étaient ennuyants. Et c'est ce qu'il a retenu de la façon dont lui a vécu l'Église quand il était enfant, quand il était jeune. Des mauvaises expériences, il ne voit plus que cela pour l'instant, en tout cas. Il ne peut pas s'émerveiller. Il pense connaître la foi chrétienne, mais en fait, ce qu'il en connaît, ce sont des aspects qui ne sont pas essentiels, qui parfois sont même opposés à l'enseignement de Jésus, une tradition qui prend trop de place. Mais dans notre parcours, ça peut aussi être une expérience de rejet par d'autres chrétiens, une approche légaliste, des abus qui ont pu être vécus dans l'Église, ou bien les abus que l'Église a pu commettre dans l'histoire. Tout cela peut constituer des obstacles importants, qui sont comme le pouce qui nous empêche de voir la grandeur. Mais je pense qu'il y a aussi une autre manière dont les obstacles peuvent apparaître, de manière peut-être plus progressive, particulièrement quand on est chrétien de longue date, quand on est tombé dans la marmite quand on était petit, pour certains d'entre nous. Et dans ce cas, le piège, je pense, c'est de passer petit à petit d'un Jésus qui nous étonne, qui nous ébahit, à un Jésus bien plus familier et banal. Comme si notre vision s'érode, s'émousse. En fait, on croit trop bien connaître Jésus à force de le côtoyer, d'une certaine manière. Et à titre personnel, ce piège, je le vis, et il se vérifie dans ma lecture de la Bible. Ce passage, je l'ai déjà lu des dizaines de fois. Forcément, je sais déjà ce qu'il dit. Je passe rapidement. Je pense presque même pas au texte que je lis. Et sans m'en apercevoir, je ne me laisse plus interpeller par la Bible, mais en quelque sorte, je projette dans le texte biblique ce que je crois déjà savoir. Nous allons partager la Sainte Cène ensemble après. La Sainte Cène, c'est toujours la même chose. On lit toujours le même texte, on dit presque toujours les mêmes paroles. Est-ce qu'on continue à y faire attention? Et voilà, si je commence à... Il y a une zone du paysage qui devient neutre, qui devient lisse. Le sermon sur la montagne, un texte extraordinaire. Mais au bout de 15-20 fois, on le connaît presque par cœur. On sait déjà, avant de lire les chapitres, de lire les versets, ce qui va être dit. Et donc on passe vite, on ne se laisse plus forcément interpeller. Puis une autre zone qui devient un peu lisse. Et puis l'exemple de la parabole du bon samaritain, la parabole du fils prodigue, qu'on a entendu depuis l'école du dimanche, qu'on connaît par cœur. Et progressivement, la lecture peut perdre de son tranchant, devenir un peu fade. Jésus, je le vois toujours. Hein. Là, je n'ai pas forcément le pouce qui me bloque la vue, mais Jésus devient plus ordinaire, plus banal. Oui, Jésus est digne d'être honoré, mais des obstacles se dressent sur la route. Comment déjouer ces pièges? Voilà. Comment déjouer ces pièges? Comment ne pas rester comme les auditeurs de la synagogue, mais au contraire, honorer Jésus? La réponse tient dans un petit mot de trois lettres qui apparaît deux fois dans notre texte. Foi. On le voit au verset 3. Hein. Il nous est dit que les obstacles empêchaient les auditeurs sur le chemin de la foi. Et tout à la fin du verset 6, il est dit que Jésus fut étonné par l'incrédulité des habitants de Nazareth. Littéralement, c'est l'absence de foi, le manque de foi. L'opposé de l'attitude sceptique, c'est la foi. C'est par la foi que je peux reconnaître Jésus à sa juste valeur. C'est par la foi que je peux honorer Jésus dans ma vie. La foi, c'est un tout petit mot qui peut sembler assez mystérieux, énigmatique. Dans la Bible, il a le sens de confiance, faire confiance, le sens de fidélité, de loyauté. Placer sa foi en Jésus, c'est plus que juste être d'accord avec ce que dit Jésus, c'est plus que trouver ce que fait Jésus, c'est vraiment super. Placer sa foi en Jésus, c'est placer sa confiance en Jésus, lui être fidèle, accepter de le suivre. C'est un engagement de la tête, du cœur, de toute notre personne. Et cette foi, elle n'est pas statique, elle grandit. C'est comme ça qu'on peut réellement honorer Jésus, le reconnaître pour ce qu'il est, comme il se présente dans ce texte, un envoyé de Dieu, un prophète. Mais concrètement, comment est-ce que ça peut se vivre? si dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées comme ce pouce, ou bien si dans ma compréhension de Jésus, il y a peut-être des zones qui deviennent un peu lisses, qui ont perdu de leur relief, on peut commencer par avancer tout seul, en essayant de prendre des bonnes résolutions. Ok, allez, on va prendre la Sainte Cène maintenant, là je vais me concentrer sur ce qu'on va dire. Ou bien, allez, je vais relire un évangile en essayant d'être vraiment concentré, et c'est un très très bon début. Mais bien souvent, on a besoin d'un peu d'aide dans ce cheminement. Les GBU sont là ce matin. Si vous êtes étudiant, allez au GBU. Ouvrez la Bible, discutez autour de la Bible pour réfléchir ensemble au sens, que l'on soit croyant, pas croyant, quel que soit le niveau d'avancement. Dans notre église, ici à Vendeuvre, nous allons avoir un parcours alpha à partir du 3 mars. Le parcours alpha, c'est une super occasion pour découvrir ou redécouvrir Jésus et la foi chrétienne d'une manière simple et authentique. On va petit à petit décaler un peu le pouce, redécouvrir certaines choses. On a aussi parfois besoin d'une lecture nouvelle, une lecture un petit peu rafraîchie des textes bibliques. Si tout se passe bien, normalement, le mois prochain, il y aura Marc l'expérience. Marc l'expérience, c'est une mise en théâtre du texte de l'évangile de Marc. Ça nous donne une vision différente que lorsqu'on lit le texte. Il y a aussi des guides de lecture, des ouvrages où d'autres ont réfléchi et ça stimule notre lecture, notre réflexion. Mais la principale aide dont j'ai besoin et dont je peux bénéficier pour avoir peut-être une meilleure visibilité sur Jésus, elle me vient de Dieu lui-même. Découvrir ou redécouvrir Jésus et l'honorer par ma foi, c'est quelque chose que Dieu peut me permettre de vivre. C'est un cadeau de sa part. Et le moyen le plus simple, c'est de lui demander cette grâce. De demander à Dieu de mettre ma foi en lui pour opter les obstacles qui bouchent ma vue, ou bien de lui demander de m'aider à faire grandir une foi qui est déjà présente, mais qui avec le temps a peut-être perdu un peu de sa saveur. Nul n'est prophète en son pays. Dans le texte qu'on a lu, Jésus se présente comme un prophète, et c'est certainement comme ça que les compatriotes de Nazareth l'ont vu et l'ont perçu, un grand prophète. Mais Jésus va progressivement montrer qu'il est plus qu'un prophète. Et on sent que les auditeurs, ils avaient compris qu'il y avait quelque chose. La toute première question qu'ils posent, c'est « D'où tient-il cela ?» C'est la question la plus importante. Parce que ça pousse à aller au-delà des paroles, à aller au-delà des miracles et à chercher quelle est l'origine, quelle est la source. Malheureusement pour eux, les obstacles auxquels ils se sont heurtés ne leur ont pas permis d'aller plus loin. Mais nous, aujourd'hui, nous savons, grâce au reste de l'histoire qu'a écrit Marc, grâce à toute l'histoire qu'a écrit Luc, qu'a écrit Jean, qu'a écrit Matthieu, nous savons que Jésus est plus qu'un prophète. Que Jésus vient inaugurer une ère nouvelle. Non seulement il est envoyé par Dieu, mais il est lui-même de nature divine. Il est Dieu fait homme. Et cette identité profonde de Jésus renforce le fait que, oui, il est digne d'être honoré dans ma vie. Et en honorant Jésus, c'est en réalité Dieu que j'honore. En honorant Jésus, je vis de manière réconciliée avec Dieu. Et nous voulons nous rappeler de cela aussi en partageant le pain et le jus de raisin maintenant. Mais avant cela, je vous invite à faire silence et à nous adresser ensemble à Dieu par la prière. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, merci pour tes paroles de sagesse. Merci pour les miracles que tu as accomplis. Nous avons besoin de redécouvrir à quel point tu es extraordinaire. Un Dieu extraordinaire qui nous rejoint dans l'ordinaire de notre quotidien. Nous venons à toi pour que tu ouvres notre esprit et façonnes nos pensées. Nous savons qu'il y a beaucoup de domaines où nous ne pensons pas comme toi. Change nos façons de penser, Seigneur. Nous venons à toi pour que tu fasses brûler nos cœurs, afin que nous soyons touchés lorsque nous méditons sur toi, pour que tu enlèves notre tiédeur à ton égard. Nous voulons aimer ce que tu aimes et détester le mal comme tu le détestes. Transforme, Seigneur, nos émotions. Nous venons à toi pour que tu nous laisses entrevoir ta sainteté, ta souveraineté, ta puissance de façon plus profonde. Nous avons besoin d'approfondir notre vision de toi. Montre-nous la gloire de ta personne, Seigneur. Amen. Le texte que nous avons lu nous encourage à honorer Jésus, car il en est digne, et c'est par la foi que nous l'honorons.